France Culture.
Il est donc 18h sur France Culture, le journal Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Exprimer son soutien aux sinistrés et décocher quelques flèches contre le gouvernement, objectif de Marine Le Pen, qui débute ce soir une visite de 2 jours à Mayotte, 3 semaines après le passage du cyclone Chido. Un déplacement très politique, au cours duquel la députée RN entend parfaire sa stature présidentielle. Toujours en colère et de nouveau mobilisée, les agriculteurs de la coordination rurale promettent des actions aux abords de la capitale demain, malgré les interdictions de manifester. Enfin, la cérémonie des Golden Globes, c'est ce soir aux États-Unis, et le film Emilia Pérez de Jacques Audiard par grand favori. Pas d'accolade ni bain de foule, mais des critiques contre l'exécutif. À peine arrivée à Mayotte, Marine Le Pen s'en prend au gouvernement et à son plan de reconstruction pour l'archipel. Celle qui est venue pour être à l'écoute des Mahorais effectue une visite de 2 jours très politique dans un territoire où elle a recueilli, Pierrick Bonneau, près de 60% des voix au second tour de la dernière élection présidentielle.
Oui, rien à voir avec sa visite d'avril dernier où Marine Le Pen avait été accueillie avec des chants traditionnels et des colliers de fleurs par les Mahorais. Mais aujourd'hui, sobriété, les élus du RN ici n'ont pas voulu organiser de comité d'accueil festif comme c'est pourtant la tradition. C'est en tout cas ce que nous explique l'entourage de la patronne des députés du RN. Dès sa sortie de l'aéroport, Marine Le Pen nous dit être là pour observer. Mais elle se place déjà sur le terrain politique puisqu'elle estime que le plan d'urgence du gouvernement pour Mayotte ne va pas assez loin. Il faut, dit-elle, s'attaquer sans tarder au problème de l'immigration irrégulière.
Sans régler le problème de l'immigration clandestine, rien ne sera utile, rien ne pourra être efficace. Pardonnez-moi d'avoir été la première à avoir dit que faire des promesses pour faire des subventions, donner de l'argent à Mayotte ne servirait à rien si on ne réglait pas le problème de l'immigration clandestine. Voilà. Donc on peut continuer à faire semblant, hein, mais je crois que les Mahorais en ont un peu marre qu'on fasse semblant.
Marine Le Pen promet que son groupe amendera le projet de loi d'urgence du gouvernement à l'Assemblée. Une rapide visite sur la base de la sécurité civile au bout de la piste de l'aéroport de Dzaoudzi pour échanger avec les pompiers et les militaires de la sécurité civile. Et fin de cette première courte journée de visite.
Marine Le Pen, Pierrick, qui a prévu aussi de faire le tour demain de l'archipel.
Programme au pas de charge puisque la chef des députés du RN a prévu d'aller du nord au sud de Grande-Terre en commençant par une visite de la maternité de l'hôpital de Mamoudzou. Puis la délégation va prendre la direction du nord de Grande-Terre, le nord de Grande-Terre ravagé par le cyclone et où le Rassemblement national fait de très bons scores. Marine Le Pen veut en fait contrôler l'action du gouvernement à Mayotte.
Non mais j'espère que la souffrance des Mahorais suffit à mettre la pression sur le gouvernement, que j'ai pas besoin de mettre une pression supplémentaire. En revanche, j'ai entendu des promesses. Moi je considère que les promesses qui ont été faites aux Mahorais qui sont dans une souffrance folle ne doivent pas être oubliées.
Et puis la triple candidate à la présidentielle veut évidemment marquer les points en termes d'image, jouer le contraste avec les différentes visites ministérielles de ces derniers jours et la visite très chahutée du président de la République 5 jours après le passage du cyclone en décembre.
Pierrick Bonneau avec Gilles Gallinaro, des mesures de fermeté contre l'immigration irrégulière à Mayotte, c'est ce que promettent Bruno Retailleau, Manuel Valls et Sébastien Lecornu. Elles figureront dans le futur projet de loi pour Mayotte, précisent les 3 ministres dans une tribune commune publiée dans Le Figaro. Lui dénonce les postures des autorités algériennes. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, doute de l'intention des Algériens de se tenir à la feuille de route signée entre Paris et Alger en 2022. Interrogé sur RTL, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères se dit très préoccupé par le rejet de la demande de libération adressée par Boualem Sansal et ses avocats. Les raisons qui ont pu conduire les autorités algériennes à l'incarcérer ne sont pas valables, dit-il. L'écrivain très critique du pouvoir algérien a été incarcéré en novembre dernier pour atteinte à la sûreté de l'État. Converger sur Paris dès ce soir, c'est l'objectif des agriculteurs de la coordination rurale qui restaient jusqu'ici discrets sur les détails de leur mobilisation. Malgré les interdictions préfectorales, ils comptent manifester demain à Paris et aux abords du marché de Rungis pour réclamer des mesures d'urgence afin d'augmenter le revenu des producteurs. Une mobilisation que le syndicat agricole annonçait massive, mais Mariam El Kurdi, les agriculteurs apparaissent ce soir peu mobilisés.
Non, pas de mobilisation massive ce soir à Paris et sa banlieue, et c'est normal. Ça fait partie de la stratégie de la coordination rurale, laisser planer le doute sur d'éventuels blocages à des endroits stratégiques, comme le péage de Saint-Arnoult sur l'A10, jouer au chat et à la souris avec les forces de l'ordre, et se décider à la dernière minute des modalités de mobilisation pour être là et quand on ne les attend pas. Maintenir le flou pour espérer réussir une action coup de poing qui se dessinerait en fait plutôt demain. On sera à la veille du début de la campagne électorale des chambres d'agriculture qui a lieu tous les 6 ans. L'ACR a sa carte à jouer sur le terrain des mobilisations, montrer qu'elle agit en faveur des agriculteurs qui vont voter durant la deuxième quinzaine de janvier. Actuellement, la coordination rurale ne détient que 3 chambres départementales contre 97 pour l'alliance majoritaire FNSEAJA, d'où le fait que le syndicat agisse en solo en ce moment, malgré le fait qu'il sera reçu le 13 janvier prochain par le Premier ministre, comme d'ailleurs l'ensemble des représentants du monde agricole.
L'Ukraine aurait lancé une contre-attaque dans la région russe de Koursk, c'est du moins ce qu'affirme la Russie ce soir. L'information n'est pas confirmée par l'Ukraine, mais cette nouvelle offensive ukrainienne constituerait un assaut surprise à 2 semaines du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain élu ayant appelé à un cessez-le-feu immédiat, l'Ukraine redoute d'être obligée de faire des concessions face à la Russie. Les pourparlers se poursuivent à Doha pour parvenir à une trêve à Gaza. Des discussions indirectes ont repris entre le Hamas et Israël qui accentuent dans le même temps ses frappes sur l'enclave palestinienne, affirmant avoir visé 100 de cibles terroristes durant le week-end, faisant plusieurs dizaines de morts. 3 mois après les élections législatives en Autriche, le chancelier jette l'éponge. Karl Nehammer a démissionné hier, faute de parvenir à former un gouvernement de coalition avec les sociaux-démocrates. Cette démission, inattendue, pourrait entraîner des élections anticipées, mais le parti conservateur pourrait se tourner aussi vers l'extrême droite du FPE pour former un gouvernement. Le président de la République a d'ailleurs invité le chef du parti d'extrême droite à le rencontrer dès demain. Les explications d'Isorias, correspondante de France Culture à Vienne.
C'est une entrevue qui sera capitale pour la suite. Le président de la République, l'écologiste Alexander Van der Bellen, recevra demain matin le chef du FPE, Herbert Kickl. Il pourrait le charger d'entamer des négociations en vue de former un gouvernement. Au lendemain des législatives en septembre dernier, remportées par l'extrême droite, tous les partis avaient exclu de négocier avec Herbert Kickl, jugé trop radical, lui qui n'hésite pas à user d'un vocabulaire marqué par le nazisme et prône la remigration. Mais les conservateurs ont opéré aujourd'hui un virage à 180 degrés. Christian Stocker, le nouveau chef du Parti conservateur.
Si nous sommes invités à des discussions avec le FPE, nous accepterons cette invitation. Ça va peut-être surprendre certains d'entre vous, car vous avez encore en tête les propos que j'ai tenus à l'égard d'Herbert Kickl, des propos critiques et parfois très durs. Mais il ne s'agit pas d'Herbert Kickl ou de moi à présent, mais du fait que ce pays a maintenant besoin d'un gouvernement stable.
Des négociations entre extrême droite et conservateurs sont donc possibles. Les deux partis ont déjà gouverné 2 fois ensemble par le passé, mais le FPE n'a jamais obtenu le poste de chancelier. Or, aujourd'hui, c'est bien le parti d'extrême droite qui apparaît en position de force.
Isorias, elle ouvre la saison des récompenses à Hollywood. La cérémonie des Golden Globes se tient cette nuit aux États-Unis. Et la France est très bien représentée cette année avec notamment The Substance, le film de Coralie Farja nommé dans 5 catégories. Quand Emilia Pérez, l'Odyssée musicale de Jacques Audiard, compte 10 nominations, dont 3 pour sa musique et ses chansons, Loïc Piala.
À Hollywood, Emilia Pérez a un admirateur prestigieux, James Cameron. Le réalisateur oscarisé de Titanic a dit tout le bien qu'il pensait du film dans le podcast Ringer Movies.
Le film qui m'a époustouflé récemment, c'est Emilia Pérez. Je l'ai vu 3 fois, ça ne ressemble à aucun autre film. C'est ambitieux, il y a une vraie vision parfaitement exécutée. C'est un immense moment de cinéma.
Cameron ne vote pas pour les Golden Globes remis par la presse étrangère. Mais son enthousiasme est un bon signe pour Emilia Pérez. Un de plus. 10 nominations aux Globes, c'est un record pour une comédie musicale. Le site spécialisé Deadline en fait le favori devant la Palme d'Or Anora, Wicked, carton en salle.
Please welcome back to the Late Show, Zoe Saldana.
L'actrice Zoe Saldana et Netflix font campagne depuis fin octobre. Même Jacques Audiard participe avec un traducteur, comme dans cette interview au site The Wrap.
Je voudrais que sous aucun prétexte mes enfants me voient.
I don't want my children to ever see me when I'm on set.
Why?
Parce que j'ai l'air d'un fou.
Audiard a été nommé en 2013 pour De Rouille et d'Os. Sans succès, cette fois, personne ne l'imagine perdre le Golden Globe du meilleur film étranger. Et il peut espérer plus, meilleur film, réalisateur ou scénario.
Loïc Piala, aux États-Unis, où une forte tempête hivernale balaye le centre et l'est du pays. Plus de 60 millions de personnes sont concernées par le blizzard et les chutes de neige, qui pourraient être les plus abondantes en 10 ans dans certaines régions, avertit le service météorologique national. Pas de neige, ni de blizzard, mais des rafales de vent attendues dans les prochaines heures en France. La Loire et le Rhône sont placés en vigilance orange cette nuit. 21 départements du Nord-Est le seront demain matin, en raison de la tempête Florian, qui apportera des pluies sur la plupart des régions au réveil. Les températures seront comprises entre 6 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Martin Descloseaux.